Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jacques-Yves Molima.
Le coordonnateur national du PDDRCS lance un message d'apaisement à tous ses ex-combattants. Tommy Tambwe précise qu'après sa réunion de jeudi dernier avec le Premier ministre, le gouvernement prendra en charge leur insertion dans le centre de formation dès la mi-août. Journée internationale de la dignité des victimes de la traite, ce 30 juillet, à Kisangani, une caravane motorisée a été organisée hier vendredi par l'Agence pour la protection et la lutte contre la traite des personnes. Objectif, sensibiliser la population sur cette pratique. Enfin, les acteurs de l'environnement expriment une inquiétude par rapport à la survie du parc national de Virunga. C'est en réaction aux propos du ministre de la Communication Patrick Muyaya sur la vente des blocs pétroliers. Nous en parlons avec Maître Olivier Ndolé de l'ONG ACDH. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le calme s'observe dans le site de transit des ex-combattants de Mubambiro, dans le Nord Kivu, suite à l'intervention et à la sensibilisation du gouverneur, le lieutenant-général Constant Dima. Les 400 ex-combattants qui étaient sortis le jeudi y sont tous retournés. C'est au cours d'un point de presse tenu ce vendredi à Kinshasa que le coordonnateur national de PDDRCS a donné cette information. Tommy Tambwe lance un message d'apaisement à tous ses ex-combattants en précisant qu'après sa réunion de jeudi avec le Premier ministre, le gouvernement prendra en charge leur insertion dans le centre de formation dès la mi-août. On écoute Tommy Tambwe au micro de Richard Junior Kamunga.
Nous sommes en train de travailler. Nous n'avons pas abandonné les ex-combattants. Nous n'avons jamais eu une ambition de les garder à l'infini dans ce centre de Mubambiro. Nous savons probablement que rester 4 ans n'est pas une chose facile. Rester 3 ans, même 2 ans, en dehors de chez soi, avec les enfants, avec les épouses, on n'a pas toute la liberté de faire ceci ou cela. Ce n'est pas facile pour un adulte. Mais le moment est arrivé où nous allons les évacuer comme il était prévu. Nous avions prévu qu'ils puissent aller dans le centre de formation emploi. Et nous rassurons encore les ex-combattants et toute la population de Masisi, de Rutshuru, de Goma et de partout ailleurs dans les environs de Sake que ceux qui sont dans le centre de Mubambiro seront effectivement évacués pour aller dans des centres de formation où ils vont apprendre des métiers et ils vont travailler.
Et puis, dans la province du Haut-Touélé, précisément chez Frédé Mazig, en territoire de Nyangara, la cohabitation entre civils et militaires s'est nettement améliorée depuis plusieurs mois. Constat fait par le chef de cette chefferie lors d'un entretien avec le Radio Kapi. Edmond Kelebolé dit que c'est le fruit de travail abattu par des membres de comités de paix et des médiateurs de conflits installés par l'ONG Invisible Children dans le cadre de son programme exécuté dans ces territoires. Reportage Jean-Claude Lokidile.
Ce sont au total 310 comités de paix et médiateurs de conflits qui sont formés et déployés à travers plusieurs entités de la région. Leur rôle est de transformer les conflits pour que les gens vivent en paix. Ils ont comme mission d'identifier les conflits au sein de la communauté et surtout de prévenir l'escalade de la violence, un mécanisme qui a permis de remettre la confiance entre population et soldats des FADC. Edmond Kelebolo est le chef de chefferie de Maziga.
Et le résultat est vraiment positif. Il n'y a pas de conflit entre l'armée et la population. Grâce à ce dialogue créé par les comités de paix, ça apporte quand même des solutions acceptables.
Des séances de sensibilisation sont régulièrement organisées au sein de la communauté, même des radios locales sont sollicitées pour véhiculer des messages de paix. Pour Clémentine Mangala, membre du comité de paix, cette approche a aussi aidé à résoudre le lien dans des ménages où la cohabitation était devenue presque impossible entre des couples.
J'ai déjà assisté à un couple qui avait des problèmes dans leur foyer. La femme voulait quitter la maison, mais je lui avais conseillé de ne pas partir, mais plutôt se faire humble, parce que c'est elle qui avait causé du tort à son époux. Aujourd'hui, ce couple est stable.
Signalons que ce programme bénéficie de l'appui financier de l'USAID, Agence des Nations Unies pour le Développement Intégral. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Cap.
Autre nouvelle, en séjour au Maniema, Auguste Matata Mpogno appelle la population du Maniema à soutenir les FRDC au front pour l'intégrité de notre pays. Il a lancé cet appel à la tribune centrale de Kindu lors de son meeting hier vendredi 29 juillet à son arrivée à Kindu après plus d'une année d'interdiction de sortir de Kinshasa. Selon ses partisans, cette arrivée a réjouit la population du Maniema, sa circonscription électorale, qui ne cessait de manifester en sa faveur pendant ce dur moment. Florence Kizalunga.
C'est au vu de la situation sécuritaire qui prévaut au pays, en particulier dans l'Est, que Matata a lancé cet appel. Et du côté de la population, certains notables affirment que voir leur élite fouler les sols du Maniema après plus d'une année, c'est un sujet de joie et de satisfaction. Maître Stéphane Kamundala est le président de la société civile Force Vive du Maniema.
Son arrivée à Kindu ne peut que réjouir toute personne de bonne foi. Et son arrivée à Kindu, c'est l'aboutissement partiel de toutes les actions que la société civile du Maniema a eu à mener. Et donc, la société civile se réjouit et est satisfaite de son arrivée ici. Autant la société civile Force Vive du Maniema a eu à mener des actions au profit des Mapons, autant elle est disposée à entreprendre autant de démarches au profit de tous les autres enfants politiciens du Maniema qui connaîtraient la même situation que Matata Ponyo.
Durant son séjour au Maniema, Matata Ponyo promet d'attendre toutes les couches pour s'imprégner de leurs difficultés. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Et puis le président de la Commission de l'Union africaine dit suivre avec préoccupation la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et condamne avec vigueur les incitations à la haine et les attaques contre la MONUSCO qui ont coûté la vie à 3 casquets bleus. Moussa Faki Mahamat l'a exprimé dans un communiqué publié le 27 juillet dernier. D'autres détails sur sa déclaration avec vous, Alain Irung.
Dans cette déclaration, le président de la Commission appelle à la retenue pour permettre aux initiatives en cours de l'Union africaine, conduites par João Lourenço, président de la République d'Angola et président de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs Siergel, ainsi que celle de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est en faveur de la paix, de se poursuivre. Le président de la Commission appelle par ailleurs à une cessation immédiate de toute forme de violence par la population et tout groupe armé contre les personnes, les biens et la mission onusienne en RDC. Moussa Faki Mahamat encourage vivement les autorités de la République démocratique du Congo à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre un terme à ces violences et restaurer le calme dans la région.
Autre nouvelle, situation sécuritaire préoccupante dans la province du Maïndombé, précisément dans plusieurs villages du territoire des Kwamout. Plusieurs voix s'élèvent, notamment pour la décrier et solliciter l'implication du gouvernement central en vue de la restauration de la paix et aussi pour appeler la population au calme. Il s'agit d'un conflit interethnique qui oppose deux communautés dont les Teke qui sont les autochtones et les Yaka, les non-originaires. Ces deux peuples en conflit s'affrontent depuis dimanche dernier. Certaines sources signalent des personnes prises en otage par l'une des parties, des blessés, des maisons qui ont été incendiées et des villages vidés de leur population. Irène Bouma.
Parmi ces voix qui se sont levées, figure aussi celle de la CGL, communauté des jeunes leaders du Grand Bandundu. Dans une déclaration, ces mouvements citoyens appellent la population du Maïndombe à la cohabitation pacifique.
La CGL exhorte la population du Maïndombe de garantir l'unité et la cohésion nationale car nous sommes un seul peuple.
Outre la CGL, il y a aussi le député provincial David Bisaka, élu du territoire de Kwamon. Celui-ci en appelle à l'intervention du gouvernement central. Et pour sa part, le député national Willy Bolio, élu du territoire voisin de Bolobo, craint que ce conflit intercommunautaire ne puisse embraser son territoire.
Kwamutu et Bolobo partageons les mêmes réalités, raison pour laquelle nous interpellons les autorités et il ne faut pas attendre le pire. Ce qu'ils sont en train de minimiser à Kwamout peut embraser la République et Bolobo.
Du côté de la société civile de Kwamout, Martin Souta, son président, appelle la population à la retenir. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Concernant toujours ce conflit, les députés nationaux et provinciaux élus du territoire de Kwamout disent dénoncer le silence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, face à cette situation préoccupante. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration hier vendredi ici à Kinshasa. Ils demandent l'intervention du Premier ministre et du chef de l'État car, affirmait-il, cette situation n'est fait que se dégrader. On écoute un extrait de leur déclaration, lu ici par le député national Guy Mousso Moampembe, joint par Alain Irung.
Pour ne pas vivre les mêmes situations vécues ailleurs, à travers la République, nous avons frappé à la porte de toutes les autorités civiles, militaires et policières pour sécuriser ces coins. Malgré tous nos appels pour désarmer ces groupes et dénicher les promoteurs et la main noire incitatrice, jusque-là, nous n'avons reçu aucune réponse favorable de leur part. Et la lenteur pour prendre une décision afin d'éradiquer ces fléaux tarde à venir. Et dans l'entretemps, la population qui ne vit que de produits champêtres crève de faim. Nous déplorons surtout le silence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, car depuis que cette situation a commencé, et malgré nos appels incessants et nos messages lui envoyés, aucune réaction urgente de sa part. Plusieurs semaines déjà que nous sollicitons une audience pour lui informer de vive voix la situation, sa porte nous a toujours été fermée. À ce jour, les habitants de ce territoire ont perdu la quiétude et se sentent abandonnés par le gouvernement de la République.
Ce journal se poursuit au Nord Kivu. Les acteurs de l'environnement expriment une inquiétude par rapport à la survie du parc national de Virunga. Ils ont affiché leur réaction au propos du ministre de la Communication, Patrick Muyaya, lors de l'émission Dialogue entre Congolais de jeudi 28 juillet. Ce dernier estime que ses propos relatifs aux appels d'offres lancés sur les blocs pétroliers menacent ses sites de disparition. Reportage.
Dans ses propos, le ministre a démontré que les violences au Nord Kivu se passent dans le parc de Virunga, mais aussi en ce moment où le pays se lance dans cette campagne d'exploitation du pétrole à grande échelle. Si le monde veut qu'on ne touche pas au bloc pétrolier situé dans le parc de Virunga, il faudrait aider davantage la RDC. Ce qui, selon le secrétaire général de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, menace ce parc de disparition, Maître Olivier Ndolé.
Je crois que ce sont des analyses pour justifier l'exploitation du pétrole dans les aires protégées, mais aussi naturellement, ça va faire disparaître les parcs. Ce n'est pas à dire que le fait que les groupes armés sont dans les parcs, que c'est la fin du parc national de Virunga, la cause de l'insécurité ou de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Faire du parc objet pour justifier l'inefficacité des actions gouvernementales pour endiguer l'insécurité dans le Nord Kivu, c'est vraiment donner des opportunités pour ce qui crée l'insécurité au Nord Kivu.
Rappelons qu'au Nord Kivu, c'est trois blocs pétroliers qui touchent le parc national de Virunga, dont deux, le bloc 4 et le bloc 5, font objet de l'appel d'offres lancé hier ce vendredi à Kinshasa.
Et puis, dans la province de la Tchopo, l'Agence pour la protection et la lutte contre la traite des personnes, APLTP, a organisé hier vendredi, dans les grandes artères de la ville de Kisangani, une caravane motorisée. Objectif, sensibiliser la population en prévision de la célébration, ce 30 juillet, de la Journée internationale de la dignité des victimes de la traite. En marge de cette journée, la coordination de l'APLTP a révélé jeudi des statistiques relatives à la traite des personnes en République démocratique du Congo. C'était à l'hôtel Palm Beach de Kisangani, lors d'un point de presse, Jacques Mukonkole.
Depuis son installation en 2019, l'APLTP a enregistré 412 cas de traite de personnes. 43 victimes sont prises en charge, des dossiers judiciaires ont abouti à la condamnation et d'autres cas sont en cours au niveau de la justice. C'est ce qu'a révélé le jeudi au cours d'un point de presse la coordonnatrice de ce service spécialisé de la présidence de la République. Ceci, le Rebecca Meta Kassanda, a déploré le développement de cette pratique qui est, selon elle, une violation flagrante des droits de la personne. Toujours selon elle, cette pratique est commise de diverses manières, notamment l'exploitation sexuelle des filles, la mendicité forcée, le trafic des organes humains ainsi que le travail des enfants dans les mines. Par ailleurs, elle a révélé que chaque année, plus de 30 millions de personnes sont victimes de traite dans le monde et plus de 350 millions de dollars sont gagnés par les criminels. Ceci, le Rebecca Meta appelle la population à s'impliquer activement dans la prévention et la lutte contre ce fléau et surtout à la protection des victimes. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, en pleine campagne électorale, le coût de la vie fait grincer des dents. L'économie est au cœur de la campagne électorale à quelques jours du scrutin du 9 août prochain. William Ruto se pose comme le défenseur des débrouillards. Pendant ce temps, Raila Odinga lui promet une aide de 6000 shillings kenyans, soit environ 50 euros par mois aux foyers les plus vulnérables. Les candidats à la présidence l'ont bien compris. La hausse du coût de la vie domine largement les préoccupations des Kenyans. L'inflation est montée à 8,3% en juillet. Et puis aux États-Unis, le bilan des inondations dans le Kentucky passe à 15 morts et pourrait doubler. Et il comprendra aussi des enfants, a déclaré Andy Beshear, le gouverneur de l'État, à la chaîne de télévision CNN.
L'invité.
Au Nord-Kivu, les acteurs de l'environnement expriment une inquiétude par rapport à la survie du parc national des Virunga. L'un d'eux s'est exprimé ainsi en réaction aux propos du ministre de la Communication, Patrick Muyaya, lors de l'émission Dialogue entre Congolais du jeudi 28 juillet dernier. Les propos selon lesquels les violences au Nord-Kivu se passent dans le parc des Virunga, ou que si le monde veut qu'on ne touche pas à nos blocs pétroliers situés dans le parc des Virunga, le monde devrait nous aider davantage. Qu'est-ce qui justifie cette inquiétude? Maître Olivier Ndolé de l'ONG ACDH est notre invité dans cette édition du journal. Il répond aux questions de Bernardin Nyangui. Suivez.
Maître Olivier Ndolé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les interventions du ministre. Quelle est votre inquiétude?
Je pense que c'est très inquiétant parce que, comme vous le savez, les interventions que le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, a prétendu avancer sont en contradiction avec l'analyse au niveau local, même au niveau sécuritaire. Je crois que ce sont des analyses beaucoup plus orientées pour justifier l'exploitation du pétrole dans les aires protégées, même si cela ne cadre pas avec les volontés législatives et même les procédures déjà prévues par les politiques et les lois de la République.
Parlons d'abord de ces propos au sujet de l'insécurité. C'est quand même vrai, le parc national de Virunga actuellement héberge beaucoup de groupes armés.
Bien évidemment, mais ce n'est pas à dire que le fait que les groupes armés sont dans le parc national de Virunga, que c'est la fin du parc national de Virunga, la cause de l'insécurité ou de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont les gens qui se sont introduits dans le parc national de Virunga sans que le gouvernement de la République ne puisse prendre les mesures nécessaires pour les chasser et qui y font l'exploitation. C'est cette mauvaise planification qui fait que l'insécurité puisse régner. Mais au-delà de cela, est-ce que dans la ville de Goma, il y a le parc national de Virunga, il y a l'insécurité? Il y a aussi l'insécurité dans les Minembwe. Est-ce que le parc national de Virunga se trouve dans les Minembwe? Si vous allez dans les Masisi, faire du parc objet pour justifier l'inefficacité des actions gouvernementales pour endiguer l'insécurité dans le Nord Kivu, c'est vraiment donner une analyse qui risque de donner des opportunités pour ce qui crée l'insécurité au Nord Kivu. Parce que si vous prenez par exemple les parcs et les volcans, c'est le même paysage pour les parcs nationaux de Virunga au Rwanda et même Queen Elizabeth en Ouganda. Mais il n'y a pas de groupes armés. Pourquoi ne devons-nous pas aussi mettre en place des efforts qui vont permettre à ce que nous puissions avoir la sécurité? En 2020, le parc national de Virunga à lui seul a contribué au budget de l'État à 80 millions de dollars. Et donc, s'il y a la sécurité, c'est possible que le parc ne puisse pas être la case pour les groupes armés, mais ça peut constituer un moteur de développement qui crée non seulement l'emploi actuellement pour les jeunes, mais aussi l'énergie, parce qu'à Goma, actuellement, c'est la ville la plus éclairée avec l'énergie renouvelable. Et au même moment, le tourisme peut générer beaucoup d'argent.
Du côté maintenant des hydrocarbures, le lancement a été effectif. Des appels d'offres pour le bloc pétrolier, dont trois touchent le parc. Le ministre aussi y est revenu. Est-ce que vous craignez que une fois ces blocs pétroliers commencer à être exploité, cela risquerait de faire disparaître le parc?
Naturellement, ça va faire disparaître le parc. Et c'est pourquoi même au niveau gouvernemental, il y a des ambiguïtés dans les communications. Parce que le ministre des hydrocarbures dit que c'est vrai, les blocs empiètent le parc, mais l'exploitation se fera loin du parc. Mais aussi, comme vous le savez, l'expérience de l'exploitation du pétrole, nous en avons assez au niveau de la RDC, Moanda. Le gouvernement semble vouloir privilégier l'exploitation pour justifier la contribution au budget de l'État, mais les conséquences sur l'exploitation du pétrole qui, à mon sens, non seulement affecte la santé des communautés locales, mais aussi affecte tous les moyens d'existence des communautés locales. Autrement, on est en train de mettre aux enchères des terres des communautés locales et du parc national de Virunga situé dans les blocs 5 et suivants.
Si on considère l'argument selon lequel la RDC peut maintenant constituer une solution pour le déficit énergétique et du côté des énergies fossiles, fossile actuellement, est-ce que cela ne peut pas amener à penser que vous êtes peut-être utilisé ou instrumentalisé pour contrecarrer ces efforts du gouvernement et qui peuvent profiter au monde entier?
Je pense que ce n'est pas le cas parce que, comme vous le savez, les efforts au niveau international actuellement sont en train de migrer, de quitter les énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Vous serez d'accord avec nous que actuellement, avec l'expérience de la crise en Ukraine et bien d'autres, avec l'épuisement aussi de pétrole dans les pays développés, la plupart des moyens de transport qui consomment beaucoup plus de quantités pour les fossiles sont en train de migrer vers des moyens de transport avec des énergies renouvelables. Mais aussi au-delà de cela, c'est vrai, on peut dire que les ONG sont utilisées pour des financements, mais je crois les premiers à être financés par l'extérieur en République démocratique du Congo, c'est le gouvernement congolais.
Maître Livien Dole, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Mimi Kindou, coordination de Piro et la Meji, sous la supervision de Alain Irung Mushinge. Merci de nous avoir suivis.